Bonjour, chers auditeurs.
Je suis Michel Soyer, j'ai le plaisir de vous accueillir dans le Florilège des Arts, dirigé par notre ami Nicolas Stocker. Et comme Radio Courtoisie est en plein travaux, nous avons des studios tout beaux, tout propres, tout bleus. Et bien, nous avons également aujourd'hui la chance de recevoir Anne-Elisabeth Moutet, ce qui nous donne un aspect international que nous adorons, car Radio Courtoisie est une radio internationale. Sauf que nous avons un petit cochon devant nous avec une fente, et dès qu'on parle un mot anglais, la tradition est de mettre une pièce dans le petit cochon. Je parle de cela parce qu'Anne-Elisabeth est quand même moitié anglaise et moitié anglaise, et donc elle a beaucoup sévi et travaillé dans la presse britannique, on va en parler tout de suite. Mais rassurez-vous, chers auditeurs, nous allons faire cette interview en français. Voilà. Alors, Anne-Elisabeth, on ne te présente plus parce que tu es une figure classique et académique de la télévision dans notre pays, mais tu es columniste d'abord au Télégraphe, et on te voit sur BFM, sur la BBC, sur évidemment CNews, et à chaque fois qu'on parle de l'Angleterre, de la famille royale et autres sujets qui nous passionnent, eh bien, tu apparais sur le plateau. Voilà. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ta nouvelle coiffure nous plaît beaucoup et très dynamique. C'est le printemps qui arrive avec des cheveux qui sont plus maîtrisés. Alors, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que effectivement, la famille royale anglaise fait la une des journaux. Et je dois quand même dire que l'Angleterre, pour nous, c'est quand même le pays de la presse de caniveau. J'allais dire, hein, on a beaucoup de magazines qui parlent de ce qui se passe dans des familles royales, beaucoup de gossips, mais il n'y a pas que l'Angleterre, parce que l'Allemagne aussi a ce genre de presse. Nous l'avons un tout petit peu en France également, mais ce sont un petit peu les Anglais avec leurs gros titres et leurs petits scandales à la une, et bien qui font, je pense, de très grosses ventes. Alors aujourd'hui, je dirais que on parle beaucoup de cette famille. Tu as écrit un livre sur William et Harry, qui était un grand succès. C'est ces deux frères, avec un destin tout à fait insensé, familial, des parents de forte notoriété et la presse qui leur court derrière. Alors, on ne comprend plus trop ce qui se passe maintenant avec Harry. Où est-ce qu'il en est, là, aux États-Unis, avec sa femme, etc. Raconte-nous.
Ah bah écoute, il se fait oublier. Alors d'abord, je voudrais demander une exemption sur le cochon, parce que par nécessité, je connais ce cochon depuis des années, puisque je connais Radio Courtoisie depuis des années aussi, je suis très contente d'être ici. Mais je demande une exemption sur le cochon, parce que ça va être très, très, très difficile de parler de Jeffrey Epstein et de la famille royale britannique. Sans utiliser de temps en temps des mots anglais. Je vais me soigner, je vais faire des gros efforts tout de même.
My God.
Ben voilà, toi, en revanche, tu n'as pas d'exemption, donc dans le cochon, tout de suite, des euros. J'ai connu la période où c'était des francs, je te signale. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Harry, on va lui reconnaître, on va lui faire cette justice, il a des défauts et des qualités, mais il a toujours était extrêmement méfiant de son oncle, lui et son frère. C'est un des rares points sur lequel ils s'entendent encore. Et ils ont toujours dit que Andrew était désagréable, arrogant, fier, malpoli, souvent. Et donc, lui, Harry, et encore plus sa femme Meghan, n'aiment pas Andrew. Mais William, c'est vrai aussi, et ça fait des années que William dit on va avoir des ennuis, et il ne faut pas que Harry et que Andrew aient un rôle important. Or, Harry et Meghan, pour le moment, ils ne sont pas au milieu de la tempête, donc ça, déjà, c'est une bonne chose pour eux, parce qu'ils n'ont pas fait que des choix intelligents, et on le leur a beaucoup reproché. Ils sont pour le moment en Californie, à Montecito, avec leurs enfants qui grandissent. Ils font de temps en temps des émissions, des podcasts, qu'on leur paye une fortune. On ne sait pas où ça va aller, mais enfin, visiblement, les gens qui avaient dit qu'ils vont divorcer très vite, ça ne s'est pas passé. Donc, pour le moment, calme plat et pas de tempête du côté Harry et Meghan, ça nous laisse beaucoup plus de temps pour parler de l'homme autrefois prince d'Angleterre et duc d'York, qui est maintenant Monsieur Andrew Mountbatten Windsor, le nom de la famille que personne n'utilise aujourd'hui sauf lui. Alors, il est dans une tempête effroyable, ça s'annonçait bien, parce que son nom a été cité des centaines de fois et même des milliers de fois dans les 3 millions de pages et les centaines de milliers d'emails qui ont été récupérés par la police américaine des affaires de Jeffrey Epstein. On attendait depuis un certain temps que ces dossiers soient révélés et comme je crois c'est difficile de l'ignorer aujourd'hui, il y a une dizaine de jours, l'administration Trump a dit « Ah bah vous voulez qu'on les révèle ?» On les révèle, ils en ont sorti donc 3 millions de pages. Si on imprimait toutes ces pages et si on les mettait l'une sur l'autre, on aurait la hauteur de 2 tours Eiffel. Donc c'est quelque chose de tellement difficile à étudier, même avec de l'intelligence artificielle, que c'est aussi une manière d'embrouiller les gens. Mais enfin, quand on fait il y a un moteur de recherche sur le site du FBI où on peut aller pour chercher des noms, et donc le nom d'Andrew Mountbatten-Windsor, qui s'appelle évidemment dans ces cas-là le prince Andrew, duc d'York, l'un des 500 noms qui sont beaucoup cités, qui sont vraiment en cause. Il y a tout là-dedans, y compris des emails à des gens qui fournissaient des fournisseurs des maisons de Epstein et des choses comme ça. Mais ça, c'est tout de même inquiétant. Et c'est beaucoup plus inquiétant parce qu'il y a eu un mauvais choix, c'est une chose très rare, de la reine Elisabeth, qui a suggéré que son deuxième fils soit l'envoyé spécial du gouvernement britannique pour le commerce extérieur. Son premier fils, Charles, qui était à l'époque prince de Galles, a dit « c'est pas une bonne idée du tout, mieux vaut pas, on aura des problèmes, il acceptera les voyages à chaque fois qu'il y aura un beau terrain de golf dans le pays où il doit aller, et sinon on aura des problèmes avec les filles et l'argent ». Malheureusement, ça s'est totalement avéré exact. Et c'est vrai qu'Andrew, il a même apparu sous les traits d'un acteur dans un feuilleton amusant qui est de la BBC qui s'appelait Les Ambassadeurs. Il partait avec un personnel important et c'est entre autres ses clubs de golf. L'équipement de Andrew voyageant, il y avait un valet de chambre, un chambellan, des aides, etc. On voyait arriver sa planche à repasser, son oreiller. Enfin, il partait pas avec un attaché case dans un avion en classe business. Donc c'était une chose que William, par exemple, et Kate ne font pas aujourd'hui. Alors, les gens racontaient des histoires amusantes sur le côté « vous ne savez pas qui je suis » et arrogant et parfois désagréable. De temps en temps et par hasard, ça marchait. Je ne vais pas citer l'un des pays d'Asie centrale où il s'est extrêmement bien entendu avec le président élu pour 4 ans qui était là depuis 20 ans. Mais ils se sont retrouvés, ils ont passé des soirées à boire ensemble et ça a aidé à signer des contrats pour la Grande-Bretagne. Donc de temps en temps, les personnalités marchaient. Mais la plupart du temps, c'était un casting qui avait le potentiel, aujourd'hui entièrement réalisé, de créer d'énormes ennuis à la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que c'est les ennuis? Pourquoi est-ce qu'on lui reproche? Alors, outre le fait qu'il a eu des histoires avec des très jeunes filles que lui a présentées Jeffrey Epstein, ce qu'on lui reproche, et la raison pour laquelle hier matin, à 8h du matin, on l'a arrêté, c'est que les emails qu'on déchiffre en ce moment montrent qu'il envoyait les comptes rendus des rencontres qu'il avait avec les dirigeants de certains pays étrangers. Ce n'était pas lui qui menait évidemment ces rencontres. Son rôle, c'était d'arriver et d'être le fils de la reine et de montrer que la Grande-Bretagne était suffisamment respectueuse du pays pour envoyer au plus haut niveau le fils de la reine. C'était une marque d'intérêt et c'était un rôle diplomatique utile. Moyennant quoi, on préparait des réunions qui parlaient de commerce extérieur, de contrats, mais pas que. Et avant, c'était préparé par les hauts fonctionnaires qui font ce genre de boulot entre Buckingham et le ministère du Commerce, des Affaires étrangères et le bureau du Premier ministre. Et ces hauts fonctionnaires circulent entre Buckingham et les hautes sphères de l'État. Donc, c'est vraiment des gens qui savent de quoi ils parlent. Il y a des gens très compétents autour de la monarchie britannique. Et donc, ils préparaient les voyages. Il y avait des briefings pour expliquer qui on rencontrait, ce qu'on voulait obtenir, etc. Et ensuite, il y avait des réunions. Et ensuite, il y avait des comptes rendus et des conclusions qui expliquaient comment ça s'était passé, quels étaient le déroulé des conversations et ce qu'on pouvait espérer obtenir. Et tout ça, c'était aussi envoyé à Andrew parce qu'ils faisaient partie de la délégation. Et cinq minutes après les avoir reçus, ils les envoyaient à Jeffrey Epstein. C'est-à-dire que les faiblesses en négociation, c'est-à-dire que les intérêts économiques de la Grande-Bretagne, parfois autre chose, étaient envoyés à quelqu'un qui allait s'en servir immédiatement, lui, pour étendre son réseau d'influence. Ce matin, dans mon journal, le Daily Telegraph, on vient d'apprendre que Andrew avait fait des affaires avec un homme d'affaires chinois, c'est-à-dire quelqu'un qui est proche du Parti communiste chinois, parce que sinon on ne fait pas d'affaires en Chine, et qu'il comptait travailler avec. Et on se rend bien compte que quand, par exemple, Andrew fait partie d'une délégation qui va à Hong Kong dans la période de transition, où c'est déjà ça a été déjà restitué à la Chine, mais c'est encore le système de un pays, un État, enfin la Chine, deux systèmes qui a été la transition jusqu'à le contrôle politique et économique total de Hong Kong avec la répression, les manifestations, les gens mis en prison, etc. Il y avait au sein de la famille royale quelqu'un qui avait tous les textes de discussion avec un certain nombre de diplomates des deux côtés, et qui, en plus, lui-même avait l'intention, donc il avait toutes les raisons de se faire des amis en Chine, de faire des affaires en Chine et de monter une société à Pékin. Je crois que le mot de trahison s'applique. Autrefois, la trahison, c'était puni par la mort. Là, c'est encore puni par la prison en perpétuité. Autant les témoignages de jeunes filles qui disent, bon, celle qui est la plus connue, c'est Virginia Roberts, qui est devenue Virginia Giuff. Elle est d'autant plus connue que on l'a vue, elle, sur une photo avec Andrew et Ghislaine Maxwell juste derrière, parce que c'était dans l'appartement de Ghislaine Maxwell à Londres, et que quand elle a fait les accusations, tout ce que Andrew a été capable de dire, c'est cette photo est truquée, ce qui n'était évidemment pas vrai. C'est facile de voir si une photo est truquée ou pas à un certain niveau. Donc, mais tous les trucs, toutes les accusations de conduite, d'aventure sexuelle, enfin, différentes choses, et éventuellement d'aventure avec des mineurs. Cette jeune femme avait 17 ans, elle n'était pas mineure en Grande-Bretagne, mais elle était mineure aux États-Unis où la majorité est à 18 ans. Tout ça, c'est embarrassant, et il va y en avoir tous les jours, on va en apprendre, mais le truc le plus grave, et la raison pour laquelle la police était chez le prince, l'ex-prince, à 8h du matin, c'était parce qu'il avait révélé des secrets d'État. Ça, c'est une énorme déflagration. Donc, on devait se voir pour parler agréablement de là, quand on a décidé tu m'as invité à Radio Courtoisie, ce dont j'étais ravie, eh ben, on s'est dit, bon, on va parler de la famille royale et de trucs sentimoto. Et là, on va dans la grande politique et on va dans une espèce de gigantesque crise mondiale, parce qu'il y a des milliers de gens, encore une fois, qui sont impliqués partout dans l'affaire Epstein, mais on passe de quelque chose, on garde le sordide, il y a toujours les horribles histoires de Epstein, mais il y a aussi la façon dont lui se faisait des réseaux et faisait, on peut utiliser l'expression trafic d'informations, pour créer des réseaux d'influence. Donc ça, c'est une énorme affaire. La famille royale, je crois, n'a jamais connu ça. C'est la première fois que un membre de la famille royale est arrêté. Alors, il était en garde à vue pendant 9 heures et il a passé 12 heures en tout dans un commissariat du Norfolk, puisque la police est décentralisée en Grande-Bretagne. C'est pas terminé du tout. Je veux dire qu'ils l'ont libéré. Ça ne fait que commencer. Donc, brusquement, on est totalement dans l'actualité.
Très bien, mais alors ce n'est pas la première fois que la famille royale vit des problèmes avec ses membres, puisque bon, Madame Simpson est passée par là il y a 50 ans. Voilà, on raconte des tas d'histoires. Et quelle est finalement sa motivation? C'est parce qu'il a un vrai intérêt économique, ou parce qu'il a fait des bêtises, ou parce qu'il s'est pas rendu compte de son rôle et de l'importance que son nom implique?
Alors, il était probablement trop conscient de l'importance de son nom, puisqu'encore une fois, c'est vraiment le type qui rentre et qui dit « Vous savez pas qui je suis, si on ne sait pas, on ne lui a pas immédiatement fait une révérence ou quelque chose. » Enfin, c'est quelqu'un d'assez désagréable. Surtout, on est obligé de dire, parce que maintenant, on a eu la preuve, quand on a commencé à parler de son histoire avec notamment Virginia Giuffre, mais d'autres, dans l'affaire Epstein, il a eu l'idée sensationnelle de donner une interview à la BBC, et sa secrétaire particulière, qui est restée à son service plus longtemps que les autres parce qu'elle lui dit toujours qu'il est formidable, a dit « Oui, oui, très bonne idée, vous serez formidable. » Alors, là, la reine d'Angleterre, et on en parlera sûrement, qui avait un faible pour son deuxième fils parce qu'elle avait vu sa sœur, Margaret, avoir une vie difficile et terminée trop tôt, en grande partie parce que on l'avait traitée comme la personne pas importante et sa sœur était la personne importante. Et donc la reine a été attachée à aider son deuxième fils à compenser. Sa fille Anne, née 2 ans après Charles, elle, de toute façon, elle a toujours été en digne héritière de son père, parfaitement capable de se débrouiller toute seule avec une autonomie complète. Et elle est maintenant devenue une des personnes les plus admirées de la famille royale. Mais Andrew, la reine s'est dit non, il faut que je l'aide. Et du coup, il y a eu une espèce de proximité entre la reine et Andrew qui n'existait pas avec ses autres enfants. C'est là où son point faible a été une énorme erreur. Ça n'a pas aidé, je veux dire qu'on l'a aidé à compenser, et du coup, il est tombé de l'autre côté du défaut. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, on essaye de réparer les erreurs qu'on a fait avec le premier enfant, et on fait l'inverse, et ça ne marche pas non plus. Beaucoup de parents doivent se reconnaître à un autre niveau sur ça. Alors là, c'est énorme, ça n'est jamais arrivé. La personne précédente qui a été arrêtée dans la famille de la longue dynastie des Britanniques, c'était le roi Charles Ier. C'était dans la première moitié du XVIIe siècle. On a fini par le décapiter parce que c'était la révolution de Cromwell. Son crime était d'être catholique et il voulait passer protestant. Donc, enfin, on parle d'autre chose. Et sinon, l'autre personne qui a eu des problèmes avec la justice, c'est la princesse Anne, dont le chien a un jour mordu un passant. Et alors, elle a eu une amende de 250 livres et elle a absolument juré que son chien ne mordrait plus personne. Et voilà, on en est là. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Ça s'est jamais vu. Ça fait partie d'une affaire dont, à mon avis, on va parler pendant des mois et des mois et des mois. Plus.
Alors, est-ce que tout ça remet en perspective un petit peu le destin de Harry aux États-Unis? Est-ce qu'on a une autre vision? Est-ce que finalement, les actions de Harry seraient en relation avec ce qu'il a identifié chez son oncle?
Alors, il y a deux manières de regarder ça. Si Harry et Meghan ont l'intelligence de ne pas faire de commentaires, ça sera probablement bien pour eux. S'ils commencent à faire des commentaires, ils ne sont pas très malins non plus. Et l'immense défaut d'Andrew, qu'il a montré dans cette interview catastrophe à la BBC avec la meilleure intervieweuse de la BBC, c'est-à-dire un mélange d'intervieweurs politiques et de Élise Lucet. De toute façon, il n'avait aucune chance et il était persuadé qu'il s'est bien débrouillé. Il n'a dit que des bêtises. Et il a dit des bêtises en montrant à quel point il était arrogant et absolument aucune empathie pour les victimes. Et il y a des centaines de victimes de Jeffrey Epstein. Il y a des histoires d'esclavage sexuel. Il y a des filles à qui on prenait leur passeport et qui étaient coincées. Qui venait d'Europe de l'Est, qui était coincé chez Epstein et qu'on offrait en dessert, si je peux dire, aux gens qui étaient invités. Enfin, c'est horrible. Il ne s'est pas rendu compte de ça. Il a menti. Il a dit, mais pas du tout. Le jour où cette personne dit, c'est une victime. Le jour où cette personne a dit que j'étais avec elle, j'étais avec mes deux filles dans un Pizza Express à Woking, une ville de banlieue de Londres. Enfin, un truc totalement improbable. On pense que les gens, s'ils avaient vu un prince avec ses deux filles dont le visage est connu, on s'en serait rappelé. Et donc, tout ça, c'est... Enfin, non seulement il s'est donné des faux alibis, mais ils étaient nuls, ces faux alibis. Donc, ça ne va pas s'empêcher de rire, parce que c'est drôle, mais c'est triste aussi. Il a expliqué que non, pas du tout. Elle ne savait pas qui c'était. Il ne l'avait jamais rencontré. Il y avait des photos. Et il a expliqué qu'il avait trop d'honneur pour abandonner Jeffrey Epstein après qu'il ait appris qu'il avait été condamné une première fois en 2008 pour avoir demandé des faveurs sexuelles d'une mineure. Et c'était vraiment une condamnation où c'était un tout petit truc négocié entre les avocats et la police de Floride, alors qu'on sait maintenant qu'il y avait des dizaines d'incidents et de jeunes filles, et pas du tout une seule personne. On disait une personne de 17 ans. On sait maintenant qu'il y avait des jeunes filles des filles de 13 ans, 14 ans, etc. Donc, il y a tout ça, c'est une catastrophe épouvantable. La famille royale est parfaitement consciente du fait que c'est très mauvais, que de toute façon, notre époque, chez les Britanniques, comme en France, comme ailleurs, il y a une espèce de d'irritation épidermique, mais réelle, des peuples, et c'est pour ça qu'on a du populisme, c'est parce que les gens disent « vous pouvez pas nous dire n'importe quoi, c'est pas possible ». Et le roi, Charles, et son fils aîné, William, ils ont la compréhension de ce que j'appelle le temps long, enfin j'appellerais le temps long, là, c'est inventé par quelqu'un d'autre. Et ils se rendent bien compte que là, dans la continuation du système monarchique en Grande-Bretagne, il faut absolument être ouvert. Jusque-là, la famille royale ne parlait jamais, ne donnait presque pas d'interviews, ne commentait jamais les critiques. Et il est évident que là, ils ont changé vraiment une attitude. Ils se rapprochent de l'attitude des autres personnalités dans le monde en se rendant bien compte que l'idée qu'il n'y a pas de commentaires et que les choses vont disparaître, c'est terminé. On est dans l'ère des archives infinies et de l'intelligence artificielle. On peut toujours retrouver ce que vous avez dit et raconter. Et donc, c'est une espèce d'énorme tournant. Il se rendait compte de ce tournant. Ça fait des années qu'il le préparait, puisqu'il y avait des conseils avec le prince Philippe, il y a plus de 20 ans, sur le même sujet. Quelque chose qu'on appelait, depuis la mort de Diana, le Way Ahead Committee, le comité pour l'avenir, le chemin à venir. Et maintenant, ils se rendent bien compte que on choisit pas le moment où on doit faire des changements décisifs, même si on est conscient des changements décisifs. Et au lieu d'avoir un rythme japonais, ils ont le rythme du cycle d'actualité tous les jours. Donc, ils sont dans une situation difficile.
Alors, c'est un grand changement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les royautés que nous avons sur la planète, et notamment en Europe, puisque je rappelle qu'on a plus de royautés que de républiques, aujourd'hui, les princes épousent les bergères. Tout ça a beaucoup changé.
Hein, très écologique, les bergères.
C'est très écologique.
Meghan a des moutons, je rappelle ça à tout le monde.
Mais alors, est-ce qu'il y a aussi des moutons noirs dans tous les
histoires? Ah bah écoutez, ça c'est la spécialité. Mais le mouton noir, ça faisait partie de... Le fils difficile, etc. Tout ça, ça fait partie d'une compréhension, parce que une famille royale, c'est aussi une espèce de projection de la vie des citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire, ah bah elle a des problèmes avec son deuxième fils, moi aussi j'ai des problèmes avec mon deuxième fils. Là, on est vraiment ailleurs.
Alors, tu racontais ça dans ton livre, justement, sur William et Harry. Donc, ma question, c'était, est-ce que ce qui se passe, là, tu viens d'expliquer les nouveautés depuis hier dans la presse britannique, ça remet en perspective, finalement, Harry et Meghan et leur façon qu'ils ont eu de quitter, finalement, le giron de la fabrique, hein, donc la famille royale, pour aller s'exiler dans l'ancienne colonie, donc les États-Unis, donc avec deux points clés, la religion est un peu la même, les protestants, et puis la langue est la même, même si on le parle avec un autre accent, donc ils sont un peu chez eux. Voilà, et voilà, donc comment est-ce que finalement William et Harry devraient agir vis-à-vis de ce qui vient de se passer, never complain, never explain, ou voilà, tu expliques que maintenant, bah, il faut expliquer maintenant ce qui se passe pour pouvoir être dans la vie quotidienne réelle et que la population, le peuple puisse comprendre un petit peu et continuer à soutenir cette famille.
Encore une fois, je pense que Meghan et Harry ont fait toute une série d'attaques qui maintenant ont l'air un peu dérisoires, mais d'agressions, d'interviews, ils disaient non mais la famille royale est raciste, franchement elle ne l'est pas. Leur intérêt est non pas de parler, tout commentaire sera d'une part vu comme une faille de plus, donc c'est... Quand on a un immeuble avec des fissures, c'est pas le moment de commencer à faire des travaux de fond, et ce serait une erreur, mais simplement de trouver quelque chose d'absolument consensuel et pas trop performatif, parce que ils ont fait des trucs avec des œuvres de charité qui n'en étaient pas, enfin ils ont fait un certain nombre de bourdes, mais pas du niveau des bourdes d'Andrew. Donc si on les voit avec leurs enfants et si éventuellement ils font quelque chose de totalement traditionnel et gentil, ça les fera remonter, on se dire bon, on s'est beaucoup amusé à en dire du mal, mais finalement c'est pas très grave. Croisons les doigts, je ne crois pas non plus à l'immense intelligence de Harry, et je pense que Meghan a un seul logiciel, et c'est un logiciel du show business américain, et qu'elle a refusé de comprendre ce que c'était que la famille royale. Elle a dit je suis venue ici pour changer les choses. Elle n'était pas à peine, elle était même pas encore mariée. Elle disait ça fait un truc qui existe depuis 1500 ans, on change pas les choses comme ça. Donc leur intérêt, ça consiste à surtout pas trop de vagues et éventuellement quelques trucs absolument acceptables, calmes, assister à la première d'un film britannique qui va être présenté aux Oscars, quelque chose comme ça, je veux dire, quelque chose qui dit voilà, on se rappelle d'où on vient, on se rappelle qu'il y a une famille royale, et pas de controverses, pas de vagues, et on se dira bah, finalement, on en a pensé tellement de mal, ils étaient de très bas dans les sondages, et ça, c'est comme ça que ça s'arrangerait. Si par hasard ils font une déclaration spécifiquement sur l'affaire Epstein, ça leur retombera dessus.
Mmh. Mais alors, effectivement, il n'y a pas qu'en Angleterre que nos dirigeants ont des soucis. On a quand même emprisonné un ancien président de la République chez nous, ce qui, quand même, aussi, c'était une bombe. Ouais. Et je pense que dans l'ensemble.
Enfin, il n'était pas de droit divin, tout de même. Le roi d'Angleterre, il est au moins des huiles saintes. Il y avait ce moment extraordinaire pendant le couronnement où il y avait cette espèce de chambre d'isolement avec des tentures au milieu de la cérémonie parce qu'on ne regardait, on ne pouvait pas, on n'était pas censé voir le moment sacré où il est loin des huiles saintes et donc il devient le monarque, il est le chef de l'Église britannique. Quand le pape précédent, le pape François avait dit à Caroline Pigozzi, la journaliste française avec qui il avait les meilleurs rapports, et tous les papes d'ailleurs, et il lui a dit, écoutez, moi j'aimerais rencontrer la reine d'Angleterre parce que c'est la seule personne qui a le même job que moi. Donc, c'est pas rien. Ça aussi, ça doit rester.
Alors, c'est vrai, nous, on dit en France que notre président de la République est un peu un roi, quelque part, parce qu'elle a beaucoup de pouvoir. Hein, bon, mais ce roi a été remis en cause. Et est-ce que ce n'est pas le cas dans différents pays où aujourd'hui, les politiques sont un peu descendus de leur piédestal? Et maintenant, on peut critiquer, on ne s'en prive pas. Ils ont affaire aussi à la justice de leur pays. Ils ont affaire à l'opinion internationale contre eux. Bon, on voit ça dans tous les pays. Je ne parle pas que de Trump ou de Poutine, etc. Donc, est-ce que... On n'est pas dans une tendance générale où effectivement le pouvoir est remis en cause voilà, la démocratie avec ses défauts, ses qualités, et nombreux défauts aussi, prend le pas sur tout cela.
Ah bah ça, on est sur la piste noire sans bâton, enfin je veux dire que c'est pas facile. Alors la différence entre Poutine et Trump, c'est tout de même que Trump, il y a des élections, et s'il les perd, c'est fini, de toute façon il a été élu deux fois, il peut pas être réélu. Donc il y a des garde-fous constitutionnels. Poutine, il a refait la constitution, et si j'ai bien compris, il a pas besoin de se faire des soucis jusqu'en 2036. Il est arrivé au début des années 2000, et donc au milieu des années 2000, et donc tout de même, on parle pas de la même chose. Oui, c'est comme ça. Alors, tous les gens qui ont étudié l'histoire de France savent que les rois de France n'ont pas été nécessairement populaires. Les libelles que l'on sortait sur Marie-Antoinette en particulier, la vie personnelle de Marie-Antoinette, c'était absolument terrifiant. Et ça ressemblait beaucoup à ce qu'on trouve maintenant sur l'Internet, qu'elle avait eu l'affaire lesbienne avec la duchesse de Polignac et autre chose comme ça. Je veux dire qu'on a absolument tout fait. Hein. L'invention des gens qui ont décidé qu'ils n'aimaient pas quelqu'un, c'est éternel, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que ça joue un rôle et qu'encore une fois, on vote. Donc, la montée des mouvements populistes et l'espèce de système d'essuie-glace où on vote à gauche, on vote à droite, on vote à gauche, on vote à droite, que Emmanuel Macron a essayé d'arrêter en disant on va dépasser la gauche et la droite, ben, on est arrivé à un an de son départ. Et. C'est pas réussi.
Oui, bien sûr. Mais alors, effectivement, à quoi, finalement, servent-ils ces royaux, ces royals? Est-ce qu'ils ont vraiment un rôle décisif dans chacun de leurs pays? Un rôle décisif dans l'Occident? Parce qu'il y a quand même, maintenant, on est un sujet Occident-Orient. Voilà. Ou est-ce que c'est vraiment la suite de notre histoire? Alors, il faut célébrer la suite de l'histoire, mais quel est le rôle qu'ils pourraient avoir pour aider les différentes populations à aller vers l'avenir?
Il y a toutes sortes de pays où on préfère encore un système monarchique. Et je dois dire en Grande-Bretagne qu'il y a encore une majorité. Elle a baissé, elle est entre 55 et 60% maintenant, alors qu'elle était à 80% pour la monarchie. Mais ils ne savent pas très bien quoi remplacer. Alors à chaque fois qu'on leur dit « mais vous voulez une république ?»« Oui, je suis républicain. » Alors vous allez avoir un président Starmer. Oh là là ! Starmer, c'est le premier ministre travailliste. Il a réussi en un an à se rendre aussi impopulaire que les conservateurs en 15 ans. C'est tout de même pas mal comme résultat. Ils sont en train de réinventer toutes les mesures économiques de François Mitterrand en ce moment. En Grande-Bretagne, ce qui fait que les gens s'en vont, ils sont en train de perdre les milliardaires, etc. On va faire payer les riches. Les riches disent, vous savez, il y a des avions et ils s'en vont. On aurait pu espérer que c'est des gens éduqués, ils auraient su qu'il y avait des problèmes, mais non, l'idéologique prime toujours. Il y a toutes sortes de pays où ils sont très heureux d'avoir un roi ou un empereur. La Thaïlande, c'est un pays où il y a une monarchie, où il peut vous arriver des choses extrêmement désagréables si vous dites quoi que ce soit sur le roi, et en même temps, c'est un pays agréable avec une industrie du tourisme, mais aussi du sous-traitement, des sous-traitances, etc. Vous avez un empereur du Japon qui avait tout de même été responsable de toutes sortes d'atrocités commises en son nom, d'abord pendant la guerre sino-japonaise et ensuite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et avec l'aide des Américains, il ne faut pas dire toujours du mal des Américains, les Américains, en la personne de MacArthur, ont écrit une excellente constitution pour le Japon, et le Japon s'est reconstruit comme un pays démocratique avec un empereur qui a exactement le rôle de la reine d'Angleterre qui assure une continuité de l'identité japonaise avec un succès que nous, en Occident, on pourrait envier. Les Japonais font des choix dont nos merveilleux technocrates disent qu'ils sont mauvais. Par exemple, ils refusent une immigration incontrôlée, alors qu'ils ont un problème démographique depuis plus longtemps que nous. Et vous avez partout au Japon, spécialement dans les endroits difficiles, des villages vides, où on peut acheter une maison très facilement. Et néanmoins, ils ne veulent pas une immigration même choisie de n'importe qui vienne chez eux pour changer la nature du pays. Donc c'est un dialogue entre les gouvernements successifs japonais qui créent, qui ont fait tout ce que nous ne faisons pas sur l'immigration. Il y a quelques années, j'étais à Tokyo en 2018 et je suis allée voir un conseiller du Premier ministre d'alors, qui était un type formidable qu'on a assassiné, Shinzo Abe, et le conseiller, poli comme tous les Japonais, et il me dit, nous rendons bien compte que nous sommes 40 ans derrière l'Europe sur les questions d'immigration et nous étudions de très très près ce que vous faites. Je l'attends qu'ils me disent la suite, et ils disent, nous étudions très très près pour voir ce que vous faites et pour faire exactement l'inverse. C'est quelque chose qui est une acceptation commune de tous les Japonais. Il y a beaucoup plus d'Occidentaux maintenant dans les grandes villes du Japon qu'avant, et ils ont parfaitement compris que le Japon, on s'assimile ou pas. Ou sinon, de toute façon, il y a des systèmes de visa à étage. Avoir la résidence, le permis de résidence au Japon, c'est un truc extraordinairement difficile à obtenir. J'ai un ami polonais qui enseigne les mathématiques en japonais à l'université de Tokyo. Donc, c'est pas un imbécile et il est utile pour le pays. Et néanmoins, sa résidence, ça a été quelque chose. Et il est très heureux, il parle japonais, sa femme est japonaise. Il y a toutes sortes de... Les gens qui réussissent à faire le pari de rester au Japon, ils ont compris à la fois l'éthos, l'éthique, c'est pas la même chose, les compréhensions de la société, tout ceci dans un système qui, au sommet, est tout de même garanti par un empereur qui est le descendant, après 2500 ans, de la déesse Amaterasu. Et si vous n'aimez pas ça, le Japon n'est pas pour vous.
Alors, est-ce qu'on devrait s'en inspirer? Parce que pour nous, vu de la France, l'Angleterre, c'est quand même le Brexit. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du Frexit. Alors, avant, on a rejeté l'Angleterre en disant, c'est des affreux, c'est des enquêtés, ils sont infidèles, ça nous coûte de l'argent, c'est une erreur. Ils avaient un pied dedans, un pied dehors. Maintenant, ils ont un pied dehors, un pied dedans. Bon, etc. Mais, est-ce que nous, on doit s'en inspirer? Et voilà, c'était un exemple et un contre-exemple. Et maintenant, l'Angleterre mène la barque.
On peut pas dire que économiquement le Brexit a montré d'énormes bénéfices pour les Britanniques. Ça n'a pas été bien négocié, et d'une part, ça n'a pas été terriblement bien négocié par les Britanniques. Et on avait des échos à Bruxelles de délégations britanniques venues discuter avec Michel Barnier qui s'engueulaient eux-mêmes dans le bureau de Michel Barnier. Et Michel Barnier, il se disait formidable, il était assis, il était poli, il attendait qu'ils arrêtent de montrer qu'ils étaient complètement désorganisés. Mais il y avait des avantages. On a été extraordinairement vindicatif à leur égard, mené par la France. Je ne suis pas sûre que ce soit une si bonne idée. Donc, ça ne s'est pas si bien passé, mais... je ne pense pas que ce soit notre intérêt. Je veux dire, en plus, c'est leur Grande-Bretagne, ils ont toujours été très différents parce que c'est une île, c'est comme le Japon, ça, à ce point de vue-là. C'est une île, on mange du poisson, on a des sports que personne ne comprend, on a différents accents, on a des classes sociales, tout ça, c'est comme le Japon. Nous, séparés de nos voisins avec lesquels, bon, que nous comprenons, que ce soit les Belges, les Espagnols, les Portugais, les Autrichiens, les Allemands, les Italiens, on sait ce que c'est. Et les Polonais, on devrait savoir ce que c'est aussi. Un certain nombre de généraux polonais se sont battus pour la France. Il y a beaucoup de choses. Et d'autres. Il y a tout de même un continent qui refuse d'admettre ses racines chrétiennes, mais qui existe à chaque fois qu'on sort dans la rue et qu'on voit l'art et les monuments qui nous restent. Mais un continent qui a beaucoup de choses en commun. Donc, l'idée qu'on soit dans l'Europe, c'est pas une mauvaise idée. Que l'Europe ne soit pas toujours dirigée de la meilleure façon, aucun pays n'est dirigé de la meilleure façon. Moi, je pense que Frexit, ça serait une grande bêtise, surtout que nous avons un voisin à l'Est qui, lui, est totalement pour le Brexit. Et très franchement, si M. Poutine est pour le Brexit, à mon avis, c'est que c'est pas bon pour nous. Ça me paraît le test immédiat.
Alors, on fait un petit break. Bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, on en était effectivement à parler du Frexit, parce que bon, l'Angleterre, effectivement, on disait tempête sur le Channel, le continent est isolé. Voilà, c'est le British humour. Voilà, effectivement. Alors, on a fait cette relation d'amour et de haine depuis Guillaume le Conquérant et autres, Dieu et mon droit. Et donc, voilà, ma question, c'était parce que par rapport à ton ouvrage sur William et Harry, maintenant, quel est le rôle de ces jeunes princes? Est-ce qu'ils ont encore un rôle? À quoi servent-ils? Est-ce qu'on devrait nous s'en inspirer? Est-ce que finalement, il faudrait mettre un roi en France? Parce qu'on en a déjà un, c'est ce qu'on dit à l'Élysée. Mais il y a, je crois, 5 prétendants vivants.
C'est trop
qu'ils sont tous plus ou moins cousins, qu'ils sont cousins. Bon, est-ce que ça serait bien pour nous? Ça serait pas bien, c'est une mauvaise idée. Est-ce que ça pourrait unir notre population, qui est quand même assez fragmentée? Est-ce que, je pose cette question, je ne suis pas personnellement royaliste, mais est-ce que la question ne se pose pas? Parce que voilà, il y a des gens qui proposent.
D'abord, c'est pas à l'ordre du jour, c'est extrêmement minoritaire. Si on avait vraiment, parmi les prétendants, quelqu'un qui se présente, et ce ne serait pas facile, avec un certain niveau intellectuel, etc., ça pourrait être intéressant. Il y a une restauration de la monarchie sur le continent européen, c'est l'arrivée de Juan Carlos à la mort de Franco. Franco décide que c'est bien de rétablir la monarchie, c'est-à-dire que il y avait une monarchie espagnole, il y a eu une brève révolution démocratique et républicaine, il y a eu les attaques de Franco contre l'État républicain, ça s'est terminé avec la victoire des franquistes, on pense qu'on veut de la victoire des franquistes, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et pendant ensuite le long glacis d'années qui a séparé la fin de la guerre d'Espagne, la guerre mondiale que Franco a soigneusement évitée, ça c'était un choix très intelligent, que beaucoup de pays auraient dû faire, comme la Roumanie et la Hongrie, mais qui étaient plus proches de l'épicentre. Quand Franco reçoit un émissaire du président Nixon, peu de temps avant sa mort, il meurt en 1975. En 1974, il y a un ancien ambassadeur des États-Unis en France, qui a aussi été un ancien patron de la CIA, un homme extraordinaire qui parle un français admirable, Vernon Walters, qui parlait, il est mort maintenant, et il va voir Franco, et extrêmement poliment, Franco le connaît, et avec toutes sortes de précautions, il demande à Franco comment ça se passe, comment ça va, et Franco lui dit « Je sais ce que vous voulez, le président des États-Unis veut savoir ce qui va se passer après ma mort. » Et Vernon Walters ne dit rien parce que
c'était vrai.
Alors, on ne savait pas quand, mais bon. Et Franco lui dit « J'ai créé une classe moyenne, j'ai trouvé quelqu'un pour restaurer la monarchie, et il avait passé le père de Juan Carlos pour choisir Juan Carlos. Mon pays est apaisé et son économie fait maintenant des progrès. J'ai unifié l'Espagne, alors parfois, avec spécialement la Catalogne, avec poigne, on va dire. Dites au président des États-Unis qu'il ne se passera rien quand je vais mourir. » C'est bon, alors on se rend compte que Franco, dont on a beaucoup parler de la médiocrité, surtout au moment de la guerre d'Espagne. Et il avait le sens de l'État, et donc il meurt. Donc on instaure la monarchie. 6 ans après la mort de Franco, il y a un coup d'État de franquistes. Il y a, on se rappelle de ces militaires qui font irruption au Parlement espagnols, les Cortés, avec des armes et qui prennent les députés en otage. Le roi, avec le général Tejero, et le roi passe à la télévision et il dit « Ne faites pas ça, abandonnez les armes, c'est contraire à la loi, je suis votre roi et je vous interdis de faire ça. » Les Espagnols de gauche disent encore aujourd'hui, après, depuis les frasques de Juan Carlos à la chasse d'éléphants et de jolies filles, toutes majeures, disent on a réussi à devenir une démocratie parce que le roi a joué son rôle. Ça, c'est l'idéal de ce que doit faire un roi. On savait que la reine d'Angleterre serait comme ça. On voit bien que Charles, sur lequel on avait des doutes, a vraiment l'intention absolument visible de bien faire. Reste donc William et sa femme. William, il a choisi la femme qu'il fallait dans cette situation et qui, à la fois, le rassure et incarne pour la Grande-Bretagne à la fois le peuple britannique dont elle est issue, avec un père qui était contrôleur aérien, une mère qui avait été hôtesse de l'air et qui a ensuite fondé une entreprise. C'est quelqu'un auquel ils peuvent s'identifier à elle, et elle n'a pas fait une erreur. Elle a rassuré son beau-père et sa nouvelle belle-mère. Elle a plus ou moins réconcilié, pas tellement parce que William a une tête de pioche, mais Camilla avec ça. Et donc, on a l'image de quelqu'un qui dit que des choses consensuelles, qui fait visiblement son devoir, qui s'est trouvé dans une situation horrible où elle a un cancer dont on ne sait pas encore exactement la nature, donc un truc pas facile, qui en a parlé. Il y a les atouts et William en est absolument conscient. Donc, la plupart des premiers ministres britanniques se disent qu'ils ont besoin d'avoir la monarchie avec eux. Et ils ont raison, je veux dire que la monarchie, c'est comme la bière Guinness il y a très longtemps, elle atteint les endroits que le reste ne peut pas atteindre. Et le résultat, c'est qu'ils s'en tirent mieux avec une monarchie. Mais nous, on ne peut pas réinventer ça. On a notre dernier monarque, c'est Napoléon III, c'était un grand empereur. Malheureusement, sa com a été flanquée en l'air par Victor Hugo, mais qui a poursuivi la révolution industrielle commencée sous Louis-Philippe et même avant, qui a donné à la France des monuments extraordinaires, qui a reconstruit Paris, qui a encouragé l'industrie. Enfin, vraiment, on a eu un bon empereur, mais il a perdu la guerre franco-prussienne, la guerre de 70, et après ça, je pense que dans nos têtes, c'est la République et on ne va pas y toucher. C'était difficile. On pouvait s'opposer à la Première République parce que les principes étaient excellents et l'exécution était celle dont s'est inspiré Lénine pour les révolutions de 1917. Ça nous dit ce que c'était. Mais la Troisième République, c'est ce qui a établi une bonne fois pour toutes la monarchie. Le général de Gaulle, qui avait grandi dans des milieux monarchistes et qui parlait de temps en temps au comte de Paris, il n'a jamais remis le comte de Paris à où que ce soit. À la fois, que les monarchistes qui nous entendent me pardonnent, parce que le comte de Paris n'était pas un grand esprit et parce que ce n'était pas la nature de la France. Donc, je ne pense pas que c'est notre intérêt. Tout comme il ne faut pas imposer aux gens des changements pour lesquels ils ne sont pas prêts et qui seront plus divisifs. C'est de l'anglais, ça, divisive, qui vont plus diviser que réunir les gens.
Cochon, pour l'anglais.
Cochon. J'avais demandé une exemption, j'étais maline.
Alors donc, c'est l'occasion d'aller sur ce sujet qui est cet article dans le Conservative, le magazine dans lequel tu te commets régulièrement, concernant effectivement ce parallèle qui était dans ton papier ô combien regardé entre Macron et Bonaparte, parce qu'on a cette tradition française post-révolutionnaire, ouais, puisqu'on parlait de Victor Hugo, et donc effectivement Bonaparte c'était une chose et Napoléon une toute autre chose sous la plume de Victor Hugo, qui effectivement était l'ennemi juré de Napoléon III depuis son île.
Il appelait Napoléon le Petit, mais il parlait de Napoléon le Grand, parce que tout de même, la légende des siècles et les poèmes sur Napoléon, c'est extraordinaire. Napoléon Ier.
Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bonapartiste, finalement, il faut le rappeler, dans Macron?
Le bonapartisme est un populisme. On ne se souvient pas assez que Napoléon pendant un moment, quand il était un jeune officier, voulait essentiellement faire de la politique en Corse et qu'il voulait apporter le jacobinisme en Corse. Mais il avait aussi il était imprégné de culture classique, et donc quand notre immense chance avec Napoléon, c'est d'abord c'était quelqu'un de très intelligent, et ensuite c'était un extraordinaire législateur, et qu'il a à la fois geler et codifier un certain nombre des principes de la République en créant, pas absolument à partir de rien, parce que là, depuis Philippe Auguste, la France a été administrée au centre, mais il a vraiment créé quelque chose qui existe encore maintenant. Et la chose qui me fascine le plus sur le premier Napoléon, c'est que quand je vais dans des pays où il a tout de même fait la guerre, l'Allemagne en particulier, et même la Russie, quand la Russie était avant l'invasion de l'Ukraine, il y a une espèce de respect pour Napoléon que nous n'avons heureusement pas pour Hitler et d'autres gens. Et c'est dû au fait que Napoléon est arrivé avec ce qu'il y avait de bon dans les idées de la Révolution. Alors il y avait aussi des choses moins bien, comme une police secrète et la guerre, beaucoup de morts. Mais les Allemands me disent « mais tu te rends pas compte, on était des amis en Franconie en particulier, c'est au nord de la Bavière la Franconie, qui disent « mais tu te rends pas compte, on était une série de principautés avec des règles médiévales, avec des corporations, avec des guildes, avec des interdictions, et que c'est Napoléon qui a tout changé, qui a tout balayé, qui a cassé ça et qui a transformé ça avec les principes d'une administration moderne. » Alors, ça ne m'était pas venu à l'esprit. Et je me trouve un après-midi pluvieux dans la Forêt Noire où on devait faire du bateau et, sur un lac et franchement, il pleuvait. Et donc, on est allé à la place au musée de l'horloge. Il y a un musée de l'horloge en pleine Forêt Noire et à part une extraordinaire horloge qui prend la place d'un grand salon et qui est entièrement plaqué or et qui est le mécanisme le plus beau que j'ai vu de ma vie, il y avait aussi des murs de coucous. Alors, on regarde des coucous, on se dit, bon, c'est folklorique. Et le guide nous montre l'intérieur du coucou. Il dit, vous voyez, le mouvement, il est en bois. Pourquoi croyez-vous que le mouvement était en bois? Alors, on dit bêtement, bah, écoutez, les paysans étaient pauvres. Pas du tout. Il y avait la guilde des travailleurs du métal qui interdisait aux gens de se servir de métal. Donc, pour ce qui est d'inventer des choses, évidemment, fichu. Donc, la paralysie, même économique, qui a hérité d'endroits où il n'y avait pas eu la révolution, où il n'y avait pas eu de changement avec une révolution aristocratique comme en Angleterre à la fin du XVIIe siècle, eh ben, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait les changements apportés par Napoléon étaient importants. Et ça, je pense que le changement législatif en France, c'est impossible de l'ignorer vu qu'il existe encore. Il existe encore en Louisiane. Les avocats louisianais sont obligés de lire une série de livres de droit en français. Ça me remplit de joie. Ils le lisent avec un accent très surprenant, mais enfin, tout de même, c'est en français, parce qu'ils n'ont pas enlevé le droit français, le droit napoléonien qui était en Louisiane. C'est tout de même. C'est ça notre héritage de Napoléon, mais c'est fini. Donc voilà, Napoléon, on ne dit plus c'était un système monarchique, on dit bon, on a un héritage énorme de quelqu'un qui s'est basé sur le droit romain, y compris ses attitudes à l'égard des femmes d'ailleurs, et c'est ça qu'on a. Mais faire quelque chose de disruptif, bon, c'est embêtant. Sur l'expression de Macron, bon, il y a un aspect de populisme de Macron, et j'ai toujours dit que Macron était populiste, j'ai toujours pensé que c'était les ressorts du populisme qui consistaient à dire « la politique n'existe pas, je fais disparaître la droite et la gauche ». Quand il est arrivé, et les gens trouvaient ça formidable, j'ai toujours trouvé ça extrêmement inquiétant. D'abord parce que si ça existe dans tous les pays depuis longtemps, on a un jeune homme de 37 ans qui arrive et qui dit « allez, je fais table rase de tout ça ». Je me rappelle des gens qui disent du passé « faisons table rase », on ne pense pas de bien. Mais aussi parce qu'on a bien vu le soir de son j'ose pas dire son couronnement, mais enfin, quand il a été élu et qu'il y a eu la passation de pouvoir et qu'il a fait son grand numéro au Louvre et qu'il a traversé les jardins des Tuileries
tout seul.
Avec le manteau bleu marine de François Mitterrand et qu'il s'est installé sur une espèce de truc en hauteur où il y avait un fossé de 100 mètres entre les gens qui étaient présents et qui étaient plutôt contents parce que quand on va à ça, c'est qu'on a voté pour lui. Et on voyait bien qu'il crée une distance qu'il avait pensé et conceptualisé et qui mais qui était démonstrative. Il y avait rien qui était fondé pour faire accepter ça, alors qu'il avait dit le contraire pendant toute sa campagne électorale. Et ensuite, on sait bien ce qu'il a fait. Et donc, on se rend bien compte que c'était à la fois quelqu'un qui est de transgressif parce qu'il aime ça, en politique comme dans le reste, et que il a aplati tout ce qui faisait partie de la texture de l'histoire de France, pour remplacer ça par un truc de jeune homme techno qui a longtemps voulu être acteur, et qui nous fait des discours encore avec une espèce de pauvre imitation de Gérard Philippe au TNP en 1953, mais qui, encore aujourd'hui, se permet de sermonner des gens et de s'ingérer dans toutes sortes d'affaires internationales, et pas toujours avec succès. Et là, il se brouille avec Giorgia Meloni, parce que Giorgia Meloni a fait un tweet pour dire que c'était effrayant qu'on tue des gens en politique aujourd'hui pour parler de Quentin, de l'assassinat de Quentin. Et Macron a publié un truc en disant... je ne sais plus sous quelle forme de réseaux sociaux qu'il maîtrise assez bien, en disant que chacun s'occupe de ses affaires et les moutons seront bien gardés. Alors d'abord, nous autres, les Français, sommes des moutons, on a été des veaux, c'est probablement un...
On a été tendus.
on a certainement été tendus, mais surtout, il passe son temps à avoir des opinions sur tout le monde. Et quand une première ministre qui est extraordinairement populaire en Italie, ses sondages sont 20 points au-dessus des sondages de son propre parti, qui, elle, est capable de vraiment d'être consensuelle, a-t-il besoin de s'engueuler avec la dirigeante d'un pays qui est un des pays les plus proches de nous, qui font partie de l'alliance de l'OTAN, qui font partie des différentes alliances européennes, et tout ça parce qu'il n'est pas content, parce qu'elle a osé remarquer qu'on battait à mort des gens dans nos rues. Je veux dire que c'est... que puis-je dire ? C'était plus bonapartiste il y a 9 ans déjà, mais il a aussi, quand on promet quelque chose, il faut tenir, et on n'a pas l'impression qu'il a beaucoup tenu. Il a fait des séries de bourdes, il nous a fait des grands discours sur l'Europe, mais on n'a pas l'impression que ça a changé. Il a changé d'opinion 3 fois sur l'Ukraine avant de décider que non, il allait mener l'Europe sur 100. Y a des raisons pour lesquelles relativement peu de chefs d'État étrangers ont un immense respect pour Macron.
Mais alors, qu'est-ce qui reste de bonapartiste, finalement ? C'était une posture préalable, oui. Mais il a un peu oublié.
Il y avait cette idée. Il y a du bonapartisme dans ce que De Gaulle fait avec le RPR dans les années 50 et quand il finit par arriver au pouvoir, parce que le mouvement gaulliste était une chose nouvelle en politique française, c'était un mouvement transclasse. Sociale. Mais la raison de ça, c'était que la résistance était transclasse. Vous aviez des gens de gauche et des gens de...
Et transpolitique, il y a quand même tous les partis politiques.
Exactement, transpolitique, transclasse sociale. Il y avait des collaborateurs de gauche et de droite, il y avait des résistants de gauche et de droite. Le colonel de la Roque qui dirige les émeutes du 6 février 1934, qui était un des dirigeants des Croix de Feu, et qui donc était sérieusement à droite, meurt en camp de concentration parce que c'était un résistant. Et à côté de ça, Doriot était un ancien communiste, donc on voit bien qu'il y a de tout. Et il y a des communistes qui, une fois que l'Allemagne a attaqué la Russie, à ce moment-là, qui ont été héroïques dans la résistance. Donc la résistance, ça expliquait pourquoi c'était quelque chose où on pouvait le comprendre. Et là où je pense qu'on a eu de la chance, c'est qu'il y avait deux possibilités de populisme dans les années 50. Il y avait le mouvement poujadiste de Pierre Poujade, et il y avait le gaullisme. Et le gaullisme, c'était intellectuellement, politiquement, etc., c'était quelque chose de beaucoup plus fort. Finalement, Pompidou, ministre du général de Gaulle, a donné une mission quelconque à Pierre Poujade, et Pierre Poujade a été ramené sans qu'on dise « nous agrégeons une partie de ce qui représente le mécontentement français ». Macron ne sait pas faire ça.
Oui, alors écoute, bon, en tout cas, merci beaucoup de cette analyse. On te retrouve, Anne-Elisabeth, sur toutes ces antennes et tous ces écrits, ces magazines dans lesquels tu es active. On a quand même appris beaucoup de choses grâce à toi. Alors bon, ça nous donne une vision un petit peu nouvelle, un petit peu de ces familles royales et de la tendance que nous avons en France. Parce qu'effectivement, ça a beaucoup fait réagir quand j'ai annoncé là, un peu la thématique Macron et Bonapartiste, qui est une grande tradition quand même française.
Mais c'est une déception raison de plus, parce qu'à la limite, il y avait probablement des façons de faire du bonapartisme intelligent, et dans une certaine mesure, le gaullisme, il y a un des aspects d'un bonapartisme intelligent, mais alors c'est raté aussi.
Ah ben écoute, c'est le printemps, j'espère que les petites feuilles et les petites fleurs vont nous donner des idées nouvelles. En tout cas, je te remercie énormément de ta présence à Radio Courtoisie, et je dis à nos auditeurs à très très bientôt pour un nouveau Florilège des Arts.
Vous venez d'entendre le Florilège des Arts, dirigé par Michel Soyer, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 20 février 2026, de 10h à 11h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.